Religion du monde. Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelles sont les 10 plaies d'Égypte ? Quelle différence entre le Jésus des chrétiens et des musulmans ? Que signifie le mot Messie ? Prophète, roi ou Dieu ? Pourquoi Moïse est-il monté deux fois sur le mont Sinaï ? Pourquoi le vert est-il la couleur de l'islam ? Dans ce déjeuner soi-disant cachère, tomates, mozzarella, côte de bœuf, pommes de terre et tarte aux pommes, chassez l'intrus. Et puis, quelle est la monture animale de Shiva, le grand dieu de l'hindouisme ? Un lion ? Un perroquet ? Un taureau ? Quiz, questionnaires, jeux, mais aussi des exposés clairs et synthétiques, c'est le cahier de vacances religion des éditions du CERF, rédigé par la journaliste Catherine Goliot, rédactrice en chef des hors-séries de l'hebdomadaire Le Point et spécialiste des questions religieuses. Catherine Goliot propose de revenir de façon ludique mais très sérieuse sur les fondamentaux des grandes religions et spiritualités.
On connaît plus ou moins sa religion quand on en a une, mais on ne connaît pas forcément les religions des autres, mais on en parle beaucoup et de plus en plus. Et l'idée était, aux éditions du CERF, de proposer un petit livre qui, tout en s'amusant, permettrait de vérifier ce que l'on sait et puis ce que l'on ne sait pas, d'apprendre des choses nouvelles, mais de manière simple, parce que les informations qui sont présentées sont vraiment des informations de base, sauf que toute religion est en soi une civilisation, et donc ce n'est jamais très simple d'essayer de pouvoir tout maîtriser, c'est-à-dire connaître tous les rituels, la raison des rituels, connaître tous les textes fondateurs, leur origine, pourquoi, les questions qui se posent, etc. Donc finalement, au bout du compte, ce n'est pas un livre, mais c'est un ensemble assez complexe d'informations, mais qui, je pense, peuvent être utiles.
Alors déjà, dans l'introduction, effectivement, il s'agit de poser ce qu'est une religion. Et c'est toujours utile de rappeler l'étymologie. Il y a deux traductions possibles. Moi, je connaissais religare, relier. Et vous, effectivement, faites mention à religare, relire attentivement.
Voilà, mais c'est un sens en fait qu'on a tendance à oblitérer, à oublier, oui. Mais qui est vraiment extrêmement important et qui est directement lié à la connaissance même à la fois du dogme, des textes et de ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire qu'une religion, ce n'est pas seulement un supermarché où vous allez choisir tel outil ou tel objet. C'est aussi une pratique et le respect d'un certain nombre de rituels religieux. Et ça, je crois que c'est oublié aujourd'hui, mais c'est vraiment fondamental. Une religion, c'est un ensemble de liens, en fait, de gestes, de convictions, de poèmes, de prières qui vont relier tous ceux qui partagent la même conviction. Alors, en même temps que cela crée une communauté, et donc religare.
Et une civilisation.
Exactement.
Ce que vous rappelez dans l'introduction, Catherine Goliot, c'est que les religions qui partent de l'animisme, on va dire, eh bien vont se développer, vont évoluer dans le temps, qu'elles vont parvenir finalement, bien sûr je fais abstraction de l'hindouisme et du bouddhisme qui sont dans ce cahier des vacances, mais elles vont parvenir pour les plus importantes d'entre elles au monothéisme. Alors là on pense au judaïsme, au christianisme et à l'islam. Et qu'elles apparaissent toujours à des moments de crise, à des moments de rupture.
Oui, mais c'est vrai aussi pour l'hindouisme et pour le bouddhisme. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que l'on a identifié un certain nombre de pratiques religieuses. Donc, par exemple, l'animisme a été présenté comme la première manière, finalement, d'exprimer le lien entre l'homme et le sacré et un monde surnaturel. Alors qu'au XIXe siècle, on a eu tendance à créer une hiérarchie des religions en disant « mais finalement, effectivement, on part de l'animisme et le monothéisme est considéré comme la religion, peut-être pas supérieure, mais en tout cas la plus élaborée », aujourd'hui, quand même, il y a toute une réflexion sur le fait que on n'est peut-être pas obligé de créer cette hiérarchie. C'est-à-dire qu'on peut avoir différentes manières d'exprimer ou d'avoir un lien avec le spirituel et le sacré.
Oui, dans mon esprit, ça n'était pas une hiérarchie, c'était juste une présentation historique.
Mais même en tant que présentation historique, parce que finalement, le bouddhisme naît vers le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, Et c'est en fait une philosophie, même plus qu'une religion, puisque normalement, au départ, il n'y a pas de dieu du tout dans le bouddhisme. Après, on va diviniser le Bouddha, mais normalement, à l'origine, il n'y a pas de dieu. Au même moment, on voit que le polythéisme hindouiste évolue lui aussi, et qu'il se dirige vers non pas tant un monothéisme, mais plutôt une sorte de polythéisme où il n'y aura qu'un dieu important. Et donc, c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ, au moment où en Grèce se développe la philosophie, mais déjà effectivement il y a un monothéisme juif bien antérieur, mais le monothéisme musulman, il va apparaître au 7e siècle après Jésus-Christ. Donc on voit que finalement, chaque religion va avoir sa propre histoire, va souvent se développer en parallèle. Et aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens, pour des raisons qui leur sont propres, s'intéressent de plus en plus aux religions qu'on peut considérer comme animistes, par exemple des Indiens d'Amérique. Et les gens qui décident de s'adonner à ce type de rituel ou de pratique ont l'impression parfois qu'ils retrouvent leur corps, qu'ils retrouvent la nature et que d'une certaine manière, ils ont une vision du religieux beaucoup plus moderne et beaucoup plus en phase avec la société actuelle que ne l'est le christianisme ou l'hindouisme ou l'islam, par exemple. Et donc, ce qu'on a aussi voulu montrer dans ce cahier de vacances, c'est que finalement, il y a différentes manières d'aborder le spirituel et d'aborder le sacré, et que ce n'est même pas un problème de tolérance, c'est un problème peut-être de curiosité et d'acceptation de modes d'expression différents.
Vous avez voulu rappeler en fait ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est-à-dire que sur quoi s'appuie la religion, sur quel texte, et puis après sur quel rite, sur quelle pratique religieuse.
Oui, absolument. Mais par exemple, dans le cadre du christianisme et surtout du catholicisme et de l'orthodoxie, on a ce qu'on appelle des sacrements. Donc, vous avez le sacrement du baptême, la confirmation, vous avez le sacrement du mariage, l'onction des malades, évidemment l'Eucharistie. Ça, c'est vraiment le sacrement fondamental. Mais dans d'autres religions, par exemple comme l'islam, vous avez un certain nombre de pratiques qui sont considérées comme des piliers, ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam. Donc, vous avez la profession de foi. D'abord, avant toute chose, il n'est qu'un dieu et Mahomet est son prophète, mais vous avez la charité, vous avez la prière, vous avez le jeûne de Ramadan et vous avez le hajj qui est le pèlerinage à la Mecque. Je précise d'ailleurs que ni le voile ni le djihad ne font partie des 5 piliers de l'islam.
Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir la porosité entre les religions. Par exemple, pour la définition de la foi juive, vous rappelez effectivement qu'il y a ce commandement fondamental. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir, mais aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein, exactement ce qu'on retrouvera dans le christianisme.
Absolument. Et d'ailleurs, ce qui est quand même très intéressant, c'est que les chrétiens sont souvent persuadés qu'ils sont les seuls à avoir une religion d'amour. On l'a mis d'abord le christianisme avant le judaïsme parce que le christianisme était la première des religions en termes d'effectifs. Mais le christianisme est né du judaïsme et la porosité, comme vous le dites très bien, entre les deux religions est quand même très importante.
Même porosité du reste avec l'islam aussi qui reprend ne serait-ce que la figure de Jésus et de Marie.
Mais absolument, parce que l'islam s'est construit officiellement contre le judaïsme et contre le christianisme en disant au départ c'est le même Dieu, mais vous avez trahi le message de ce Dieu-là. Et nous sommes le dernier message, Mahomet est le dernier des prophètes, c'est le sceau des prophètes, mais nous sommes le vrai, vous êtes faux. Mais en même temps, il reprend les grandes figures de la Bible, qui sont Abraham, qui est censé avoir créé la Kaaba, vous savez, ce temple qui se trouve à la Mecque, et vers lequel est orienté la prière du musulman. Abraham est fondamental, Noé est fondamental, Moïse est fondamental, et Jésus et Marie sont fondamentaux pour les musulmans, notamment pour les musulmans soufis, qui sont des musulmans sunnites qui pratiquent une relation à Dieu qui est plus mystique que la relation traditionnelle du sunnisme, et pour qui Jésus, Yeshua, est fondamental. C'est vraiment un personnage essentiel.
Le soufisme qui, du reste, pratique également le culte des saints, vous le rappelez, et où la musique est autorisée.
Absolument. Alors, le soufisme est plutôt une branche du sunnisme, même si certains, ce qu'on appelle les tarikas, c'est-à-dire des communautés, peuvent être plus proches du chiisme. Mais d'une manière générale, c'est une pratique qui naît dans le sunnisme et qui, contrairement au sunnisme, et c'est pour ça que, par exemple, les wahhabites, qui est une famille de l'islam liée à l'Arabie saoudite et particulièrement rigoureuse, les rejettent et les a poursuivis et les a persécutés parce qu'ils ont pratiqué et ils continuent de pratiquer le culte des saints et que certaines communautés soufis pratiquent la musique avec un art magnifique. Mais dans d'autres tarikas aussi, ils ont à chaque fois une pratique beaucoup plus souple finalement, beaucoup plus proche des gens, beaucoup plus, on dirait, piétiste. C'est aussi un des problèmes, si vous voulez, de ces religions. C'est qu'on voit qu'elles ont toujours plein de familles. C'est-à-dire qu'une religion, ce n'est pas monolithique. Dans le christianisme, vous avez le catholicisme, vous avez l'orthodoxie, vous avez le protestantisme. Mais à l'intérieur du protestantisme, par exemple, vous avez plein de familles, avec à chaque fois une approche différente des rites. Et donc, c'est la même chose dans l'islam, où le soufisme a essayé d'être beaucoup plus proche des croyants que ne peut l'être, par exemple, le soufisme officiel, dont on pourrait dire qu'il est plus fondé sur la loi uniquement.
C'est ça, le soufisme, effectivement, tel que vous le décriviez à l'instant, Catherine Goliot, c'est un rapport plus direct à Dieu.
Un rapport plus direct à Dieu dans une religion où, normalement, l'homme est seul face à Dieu, mais où la loi, le respect de la loi, est fondamental. C'est-à-dire que finalement, être un bon musulman, vous respectez les cinq piliers de l'islam et vous pouvez être sûr d'être un bon musulman, normalement. Alors que dans le soufisme, il y a cette recherche d'une relation presque physique à Dieu, comme chez les mystiques chrétiens, comme dans le hassidisme, qui est une famille du judaïsme, où par le chant, par la danse, on va essayer d'entrer en transe et en relation avec Dieu.
Oui, les mystiques, effectivement, de toutes les religions forment en fait une grande et même famille, peut-on dire, non ?
Famille, je ne sais pas s'ils accepteraient, si ce les mystiques chrétiens accepteraient d'être assimilés aux hassides ou alors aux soufis.
En tout cas, dans la recherche, clair, dans la recherche.
Mais ce qui est clair, c'est qu'on observe, comme vous le dites très bien, dans toutes les religions, en fait, on observe toujours deux voies. Une première voie qui est plus la voie de la loi, de l'ordre. Vous effectuez un certain nombre de rituels, vous allez dans le lieu de culte et vous êtes plutôt sympa avec vos voisins et donc, en gros, vous êtes un bon pratiquant et ça suffit. Et puis, vous avez toujours un courant qui, lui, est en recherche d'une spiritualité beaucoup plus forte, beaucoup plus physique. On appelle ça le mysticisme, mais ça prend des aspects très différents, mais ça existe dans tous les courants. Et ça existe aussi dans l'hindouisme, par exemple, ça. Je pense que ça correspond à un besoin de l'homme. C'est anthropologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se contentent de respecter la loi, et puis il y a des gens qui ont besoin d'avoir une sorte de fusion totale avec le spirituel.
Précisément, quelques mots sur l'hindouisme et cette forme de libération, en fait, de sortie, en tous les cas, ce besoin de s'émanciper de rites qui étaient excessifs dans le védisme, qui est à l'origine de l'hindouisme. Il y a eu ce besoin d'émancipation également.
Au moment, en fait, où apparaît le bouddhisme et une autre religion dont je ne parle pas, mais qui est très importante en Inde, mais qui est vraiment spécifiquement indienne, qui s'appelle le jainisme. Au départ, en Inde, il y a une religion qu'on a appelée la religion des Védas, le védisme, qui était fondée sur le sacrifice et qui donnait un rôle essentiel aux prêtres. Et la société a évolué, parce qu'une religion, c'est aussi le produit d'une société. La société a évolué et les gens n'ont plus voulu être seulement des participants extérieurs au sacrifice et que le Dieu ne soit finalement que le produit du sacrifice. Ils ont voulu avoir une relation plus intime, plus individuelle avec le Dieu. Et donc, est apparue la contestation bouddhiste, est apparue la contestation jainiste. Et dans le même temps, au sein même du védisme, est apparue une contestation, c'est-à-dire une évolution du rapport que l'homme entretenait avec la divinité. Des dieux nouveaux sont apparus, des écrits nouveaux sont apparus. On ne s'est plus contenté uniquement des poèmes du Véda, mais sont apparus des livres comme les Upanishads. Et dans le même moment, ont été réalisées des épopées. des poèmes très importants. Il y a le Mahabharata et puis il y a le Ramayana. Et au sein du Mahabharata, qui est un texte qui a été écrit sur de longues années, hein, ce n'est pas le produit d'une seule personne à un moment donné, il y a un texte très très important qui s'appelle la Bhagavad Gita, où là vont être exposés un rapport au Dieu beaucoup plus fondé sur la fusion avec le Dieu. C'est cette période où vont apparaître donc les dieux comme ce qu'on appelle la Trimurti, c'est-à-dire qu'il y a Brahma, Vishnu et Shiva, mais aussi les avatars de Vishnu, comme Krishna par exemple, qui est le héros de la Bhagavad Gita, et que vont apparaître aussi des déesses. Et donc, la relation au Dieu va devenir une relation d'amour fou, d'amour fusion. Et ça, c'est, on peut dire que c'est effectivement une mystique très très importante, et qui va fonder ce que les... En fait, ce sont les Anglais qui ont appelé l'hindouisme la religion de l'Inde, mais les Indiens ont repris ensuite ce terme-là, mais au départ, ça ne s'appelait pas comme ça, mais en tout cas, c'était une religion de fusion avec... un certain nombre de dieux.
Est-ce que l'on peut dire que le bouddhisme, qui est né à la suite de l'hindouisme, qui en est sorti en quelque sorte, eh bien, c'est une religion ou philosophie d'émancipation ?
D'émancipation de la souffrance, oui, parce que au sein donc de la pensée indienne, il y a cette idée que tous les actes que nous commettons comptent. Et que quand on meurt, finalement, on fait les comptes, et puis si on a des comptes qui sont mauvais, on renaît à nouveau. Alors après, le cycle des renaissances peut... Enfin, on s'imagine les cycles de renaissance d'une manière un peu différente. Et le Bouddha, lui, a dit, mais attendez, il faut se libérer de tout ça, quoi. Si on se libère de la souffrance en elle-même, si on se libère du fait que on se culpabilise, si on se libère de tout ça, si on se libère de tout ça, finalement, il n'y a plus de souffrance, donc il n'y a plus de renaissance. Et donc, on peut arriver à ce qu'on appelle le nirvana, mais qui est un nirvana de libération. Parce que tout ça, finalement, n'a pas de sens. C'est une pensée complètement révolutionnaire. De cette pensée-là est né le bouddhisme qui a évolué, c'est-à-dire qu'au départ, c'était une religion, d'abord essentiellement une religion de moines, et c'était d'abord une manière de vivre, une philosophie de la vie, et ça s'est transformé en religion, avec là aussi des familles, de multiples familles, dont aujourd'hui, on peut dire que la plus importante est ce qu'on appelle le Mahayana, c'est-à-dire le grand véhicule. Il y a d'autres familles qui existent, et puis dans chacune, il y a évidemment des textes différents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les Occidentaux s'intéressent beaucoup au bouddhisme tibétain. Il a beaucoup de points communs, bien sûr, avec le bouddhisme zen, qui est l'une des branches du bouddhisme japonais, qui intéresse aussi beaucoup les Occidentaux. Chacun a ses spécificités, sa manière de méditer, sa manière de non pas de concevoir le monde, mais en tout cas de penser, par exemple, la retraite, la vie monastique, etc.
La dernière question, Catherine Goliot, c'est sûr, c'est sur les jeux à la fin. Et ils ne sont pas toujours franchement faciles. Bon, alors il y en a certains qui sont faciles. Je vois qui est cachère, alors il faut chasser les intrus. Vous avez le bœuf, le mouton, la chèvre, etc., le cerf, la gazelle. Enfin, je n'ai pas tous ces cités, donc ça c'est assez facile. Mais il y a d'autres questions qui sont quand même beaucoup plus difficiles. Comment avez-vous conçu précisément cette grille de questions et de jeux ?
L'idée, c'était que les gens commencent par lire les textes initiaux et apprennent donc un certain nombre de points, et les jeux reprennent toutes les informations qui sont dans les textes, les informations, etc. Donc, normalement, ça ne devrait pas être difficile. Mais je suis désolée de découvrir que ça l'est un petit peu. Bon, vraiment, désolée.
Non, mais
c'est très bien. Il faut lire les textes très attentivement.
Absolument, voilà. Absolument.
Vous êtes obligée de faire ça, ça va occuper vos vacances. Et j'espère que vous allez bien vous amuser quand même, parce que le but du jeu, c'est pas d'ennuyer le lecteur, bien au contraire, c'est d'essayer de le faire entrer dans des univers, faire découvrir des rituels, faire découvrir les raisons des fêtes, faire découvrir aussi les récits qui accompagnent une religion. C'est-à-dire que, par exemple, dans le christianisme, les évangiles racontent la vie du Christ, mais ils la racontent tous de manière différente. Et donc, l'idée, c'était aussi d'encourager les gens à aller lire l'évangile de Jean et de voir quelle était la différence avec l'évangile de Matthieu, par exemple.
Voilà, l'idée, c'est de bronzer intelligent. Merci, Catherine Goliot.
Et cultivé.
Et cultivé, absolument. Je rappelle donc votre cahier de vacances, et c'est publié aux éditions du Cerf. Merci, et je vous souhaite un bel été.
Merci beaucoup.
Ce Ce sont avec 200 questions sur les textes, l'histoire, les pratiques et les rites dans le judaïsme, le christianisme et l'islam qu'Isabelle Lévy entend apporter à son lecteur des réponses à des questions qu'il se pose ou qu'il ne s'est jamais posées. Connaître et comprendre le judaïsme, le christianisme et l'islam, publié aux éditions Le Passeur, est un ouvrage de référence. Isabelle Lévy a passé toute sa carrière à former le personnel soignant aux pratiques religieuses. Il s'agit d'une réédition augmentée du premier livre paru il y a 20 ans.
J'ai trouvé utile dans les temps actuels que nous traversons de le reprendre, de le réargumenter et puis de l'enrichir de nouveau et le représenter à un lectorat qui s'interroge justement sur quelles sont les pratiques des uns et des autres, quelles sont les différences, voire les regroupements. Et puis on ne peut pas comprendre souvent le christianisme ou l'islam si on ne connaît pas bien non plus le judaïsme. Donc il est bon d'aller voir les uns et les autres et puis surtout de comprendre. Ça ne veut pas dire de croire en tout ce qui est écrit, mais au moins comprendre les bases des pratiques religieuses, des croyances, pour mieux comprendre son prochain. Et parfois, ne plus dénigrer les uns et les autres par rapport à des interdits alimentaires, une façon vestimentaire d'être, ou un comportement, ou une croyance. Se dire que peut-être il y a des liens entre sa propre croyance. La chasse aux œufs, par exemple, eh bien, c'est un point de légitimité avec le judaïsme qui, lui, planque du pain la veille de la Pâque juive, et les enfants, ce sont les adultes qui mettent dans des endroits de la maison différentes miettes de pain, et c'est au père d'aller les retrouver, et on nettoie la maison avant la Pâque juive de tout place de Hamès, c'est-à-dire de pain levé. Donc comme quoi, les traditions du christianisme sont souvent issues de judaïsme, et si on ne connaît pas le judaïsme, donc on ne peut pas comprendre le christianisme, et l'islam même chose, si on n'équerre pas de croyances du judaïsme et du christianisme, il y a aussi beaucoup d'éléments qui peuvent nous passer un petit peu pour nous incompréhensibles.
La Pentecôte.
Bien sûr.
Bientôt. 40 jours après Pâques, après la Pâque juive, c'est-à-dire Pessah, voilà. Et puis la Pâque chrétienne, avec un S cette fois, puisque la Pâque Pessah, Pâque juive, c'est un Pâque sans S.
Alors pourquoi singulier pluriel?
Oui, pourquoi singulier pluriel?
Il faut savoir se poser des questions. En fait, il faut appartenir au peuple du pourquoi. Pourquoi? Alors pourquoi Pâque juive au singulier? Ben tout simplement, si je puis dire, on célèbre la fin de l'esclavage en Égypte qui a duré 220 ans et la liberté du peuple hébreu qui va traverser le désert pour récupérer la Torah, etc., être désigné comme peuple élu par Dieu et donc suivre leur chemin et créer le judaïsme, et puis Pâques chrétienne au pluriel, parce que les chrétiens célèbrent bien sûr la passion du Christ, mais aussi la Pâque juive, c'est-à-dire la fin de l'esclavage du peuple hébreu, parce que Jésus lui-même, avant d'être emprisonné par les Romains, eh bien il célébrait quoi ? La Pâque juive.
Oui, il est venu à Jérusalem.
Et d'ailleurs, il reste quoi? Ben, de l'hostie. L'hostie, c'est du pain non levé dans les églises. Donc, pourquoi? Parce que la première Eucharistie a bien été faite sur du pain levé. Et pourquoi dans les hôtels, dans les églises, il y a toujours une nappe?
Oui.
Non pas pour faire joli, comme le croient beaucoup de paroissiens, mais tout simplement parce que dans la religion juive, on a l'obligation, les jours de Shabbat et les jours de fête, de manger sur une nappe. Et les autres jours, on peut manger sur une table nue, tout simplement pour distinguer les jours ordinaires des jours de fête. Jésus a fait sa première Eucharistie sur une nappe parce que c'était la Pâque juive et on n'avait pas le droit de manger sur une table nue. D'où voilà pourquoi ces nappes sur les autels.
Vous évoquiez il y a quelques instants, Isabelle Lévy, la notion de peuple élu. Pour le peuple juif, c'est une notion souvent mal comprise.
Ils ont été élus par Dieu, choisis par Dieu. Je tiens à dire, ils n'ont pas été le premier peuple qui a été choisi par Dieu, mais les autres peuples qui ont été précédemment choisis par Dieu ont refusé cette élection. Et le peuple hébreu l'a accepté. Alors, peuple élu, pourquoi ? C'est pour accepter de suivre les commandements qui ont été donnés à ce peuple et pour les apporter aux autres peuples. En réalité, ils ont pas, sont pas élus dans la richesse,
hiérarchiquement.
Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de richesse. C'est simplement peuple élu, peuple choisi pour apporter les commandements à travers le monde. D'ailleurs, ces commandements ont été la majorité, je parle des 8 commandements. 8 des 10 commandements sont suivis quasiment par tous les peuples. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas envier, etc., etc.
C'est basique.
Voilà, on va dire c'est basique, c'est des commandements divins.
Cela dit, bon, il y a ces 10 commandements. Après, il y a la loi. loi. Il y a la question de la loi.
Oui. Hein.
La différence, par exemple, entre la loi juive et puis, dans l'islam,
la charia.
La charia, absolument. Quelle différence?
La loi juive, en fait, elle est issue de
la halakha, donc on est d'accord.
La halakha, hein. Voilà. Elle est vraiment issue des textes sacrés. Et donc, c'est Dieu qui a donné ces 613 commandements. Et c'est à partir de ces 613 commandements que ces lois ont été donc écrites dans les textes et repris ensuite par les rabbins pour pouvoir les appliquer jusqu'à nos jours. En ce qui concerne la charia, bien entendu, c'est issu des lois coraniques, mais surtout, c'est écrit par des religieux. Mais ça veut dire que ce n'est pas une obligation pour tous les musulmans de suivre ces règles.
Contrairement aux juifs.
Absolument. C'est-à-dire que là, c'est un religieux qui dit « voilà mon point de vue sur le sujet ». À vous de suivre ou de ne pas suivre
ça,
si vous l'adoptez.
Ça.
Voilà, ce sont des fatwas. C'est vrai que le fait est, par rapport à la charia, il y a aussi des lois donc coraniques qui sont issues directement des textes. Mais ce qui est, à la différence des juifs, c'est qu'il n'y a pas de recul sur le temps. C'est-à-dire que, par exemple, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on doit couper les mains aux voleurs. Bon, c'est écrit. On ne va pas réécrire la Bible, mais évidemment, la loi juive l'interdit. Alors qu'aujourd'hui, vous avez des religieux qui disent « c'est écrit dans le Coran, donc on doit l'écrire tel que c'est ».
Ça, c'est ce qu'on appelle la lecture fondamentaliste, mentale.
Voilà.
Littérale.
Et donc, il faut savoir prendre parfois du recul sur ce qui est écrit.
Alors qu'effectivement, dans le judaïsme, il y a cette tradition de tout discuter. Hein,
de tout discuter, tout se discute.
On va couper les cheveux en quatre à certains moments.
Oui, d'ailleurs, on dit toujours quand il y a deux juifs qui discutent, il y a trois points de vue. C'est pour vous dire qu'en réalité, tout se discute. Moi, je me souviens, un jour, j'ai rencontré un rabbin à 10h du matin. Je l'ai quitté à 16h, sans pause. On était parti d'une question et d'une question à l'autre. 6h s'étaient écoulées sans boire et sans manger, sans se lever de quoi que ce soit, sans téléphoner. Mais pour dire que, en effet, tout se discute dans le judaïsme. Il y a toujours un pourquoi, il y a toujours une raison à quelque chose. C'est le plaisir qu'on peut avoir avec les rabbins quand on les rencontre.
Les interdits alimentaires, parlons-en. Hein. C'est quand même le gros point. La fameuse question du porc, ça, on le sait, pour les juifs et les musulmans, bon, on le sait un petit peu moins quand même pour les poissons, hein, les fruits de mer. Pour les juifs, effectivement, alors, il faut que les poissons aient des écailles.
On y tient. Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas de fruits de mer, de coquillages, etc.? Parce que ce sont des animaux qui vivent au fond de l'eau et c'est connu et reconnu, ils filtrent l'eau de mer, retiennent les impuretés pour s'en nourrir et libèrent l'eau. En gros, c'est les éboueurs de la mer. Donc, ils se nourrissent d'impuretés, ils sont très utiles à la mer, bien entendu, mais néanmoins, ils ne sont pas bons à la consommation parce que porteurs de maladies. En ce qui concerne les poissons, seul dans le judaïsme est autorisé les poissons avec écailles et nageoires. Pourquoi ? Ce sont ceux qui, dans les eaux des mers et des rivières, vivent au milieu de l'eau, alors que ceux qui n'ont que des nageoires vivent soit au fond de l'eau, soit au niveau de la ligne de flottaison. Donc, ils se nourrissent de quoi, ces poissons sans écailles ? De tout ce qui flotte au niveau de la ligne de flottaison, ainsi que les insectes, etc. Ceux qui sont au fond, de toutes les impuretés, de tous les déchets qui sont tombés au fond de l'eau, donc ils n'ont pas une très bonne nourriture, ils ne se nourrissent pas de plancton, etc. Donc, on ne les mange pas.
C'est le titre de votre chapitre, c'est manger sain, S-A-I-N-T, mais c'est aussi S-A-I-N en fait.
Absolument, hein. Tout à fait. Tout
en fait, c'est une question de santé là,
uniquement. Oui, c'est comme ne pas manger de sang, comme par exemple, c'est pour ça que les animaux sont égorgés dans le judaïsme, comme dans l'islam, comme chez les chrétiens orthodoxes normalement, et donc vider de leur sang. Oui, donc on ne mange pas de sang parce que le sang reste porteur de maladies.
Chrétiens orthodoxes.
Oui, les chrétiens orthodoxes, dans les pays orthodoxes, ils égorgent. En fait, il faut savoir que même en France, on égorge et on saigne les animaux. Simplement, en France, entre autres, on a le droit de réutiliser le sang pour la charcuterie, alors que le judaïsme, l'islam et les chrétiens orthodoxes ne le font pas.
Les conséquences, précisément, de la cacheroute, par exemple, c'est une façon de préserver la communauté. L'identité de la communauté.
Oui, il y a un peu cette idée. En fait, dans tous les peuples, quand vous étudiez n'importe quel peuple, même des peuplades africaines ou asiatiques ou autres, c'est par notre alimentation, par nos rites qu'on se distingue des autres. Alors ça ne veut pas dire qu'on est contre les autres, mais c'est une façon de dire, moi dans ma famille, moi dans mon peuple, voilà ce qu'on mange, voilà comment on s'habille, voilà comment on se comporte. C'est une façon de dire, voilà ce que nous sommes. On se reconnaît comme ça. Maintenant, ça n'empêche pas les gens de venir dans les restaurants cachers ou dans les familles cachères, mais c'est vrai que ceux qui mangent strictement cachère ont beaucoup plus de mal à aller manger vers les autres, avec les autres, dans d'autres lieux que cachères, parce que les règles sont très strictes, aussi bien au niveau de l'alimentation que de la vaisselle, que de la préparation, etc.
Toujours pour rester dans les interdits alimentaires, pas mélanger le fromage, c'est ça, le fromage avec la viande.
Oui, alors, voilà, ça on ne mélange pas viande et laitage au cours d'un même repas.
On dit qu'on ne fait pas, on ne cuit pas l'agneau
dans le lait de sa mère.
De sa mère, voilà. C'est ça. Ça veut dire quoi, ça?
Ben, écoutez, les rabbins ont eu un petit peu de mal à comprendre ce verset. Donc, ils ont simplement dit, on ne doit pas mélanger un agneau dans sa mère. Donc, l'inceste est interdit. Ça rassure.
Oui, ça rappelle voilà. L'inceste, hein, les questions d'inceste.
Voilà, une question d'inceste. Ouais. Et puis, on ne mélange pas la viande et le laitage, donc au cours d'un même repas. Ça signifie que, par exemple, cuire de la viande avec du beurre, c'est impossible. Ou la présenter avec une sauce à base de crème fraîche, c'est impossible. Donc, on ne mélangera pas du laitage et de la viande au cours d'un même repas, c'est-à-dire pas seulement dans un plat, mais de l'entrée au dessert. Donc pas de glace si on a mangé un steak frit, par exemple, pas de concombre à la crème fraîche si on a l'intention de manger un rôti de bœuf, etc., etc. Ce sont des règles qui sont très strictes, qu'on applique, je dirais, dès l'enfance et qu'on se pose même plus de questions le pourquoi du comment. Alors, à part qu'on se rend bien compte que quand on ne mélange pas viande et laitage au cours d'un même repas, déjà, on a une digestion plus digeste et notre corps assimile beaucoup mieux les protéines d'origine animale et laitières. Alors que si on mélange le tout, eh bien, on a, on va dire, des digestions difficiles et surtout, on n'assimile pas tout.
Dans le fond, c'est diététique. Et pour conclure, Isabelle Lévy, sur les interdits alimentaires qui n'existent pas dans le christianisme, il y a cette phrase d'un des apôtres qui dit « ce n'est pas ce que l'on avale, mais c'est ce que l'on... »
Qui entre dans notre corps, qui nous rend impur, c'est ce qui sort de notre corps qui nous rend impur.
Voilà, absolument. Les paroles mauvaises.
Voilà, les paroles, les actes, les comportements et non pas l'alimentation. Alors que bon, dans le judaïsme, l'un n'empêche pas l'autre.
Merci Isabelle Lévy. Je rappelle le titre de votre livre « Connaître et comprendre le judaïsme, le christianisme et l'islam » et c'est publié aux éditions Le Passeur. Évangile lu sous l'angle de l'humour, Jésus vu comme un facétieux, notamment à travers ses miracles. En cette période estivale, les éditions du Cerf proposent les 33 meilleures blagues de Jésus, une BD signée par deux saltimbanques catholiques très respectueux des Écritures, Bruno Tellen, dit Basile de Coq, et son compère de toujours, Richard de Sèze. À vous de bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être ensemble dans ce studio. Vous êtes tous les deux hommes de médias, vous êtes des fins connaisseurs des Écritures. Vous aimez les blagues, les pastiches. Basile de Coq, vous êtes le président à vie du groupe Jalon que vous avez créé. Et Richard de Sèze est...
Un membre historique et fondateur.
Membre historique et fondateur. Donc Jalon, en quelques mots, c'est un club de blagues.
C'est un groupe d'intervention culturelle qui a pastiché tout ce qui bougeait pendant 30 ans. Notamment, on a commencé par toute la presse, on a fait le monstre, l'aberration, le figagaro et autres. Et ensuite, on s'est attaqué aussi à la presse people, à la presse sportive. Mais ce livre-là n'est pas une parodie.
Donc, les 33 meilleures blagues, évidemment 33 comme l'âge de Jésus. Pourquoi ce livre? Pourquoi aborder les évangiles? Bah, comme si c'était des blagues, parce que c'est quand même très sérieux les évangiles, et ça se termine quand même un peu douloureusement, on va dire.
Oui, non, je ne pense pas
mais
que ça se termine
pas,
douloureusement,
ça, voilà.
Il faudrait...
Il y a la résurrection, oui,
faudrait
je sais.
Se souvenir qu'il y a un après la crucifixion, malgré
oui.
tout, sinon ça ôte une certaine dimension à notre religion. Si on oublie la résurrection, enfin, il
en tous les cas,
c'est moins clair.
La crucifixion est quand même un moment très, très pénible, on va dire. Voilà, bien sûr, après, il y a la résurrection.
Un moment pénible, mais nécessaire et accepté par le principal intéressé, notre Dieu incarné.
Oui, qu'il l'avait effectivement annoncé, oui.
Nous avons voulu aller faire la preuve par l'exemple qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le rire et l'humour et qu'au contraire, l'humour divin est une manifestation de l'amour divin.
C'est ça, oui, Chesterton, effectivement, que vous citez en préambule. Il y a quelque chose que Dieu a caché à tous les hommes quand il est monté sur la montagne pour prier. Il y avait une chose trop grande pour que Dieu pût nous la montrer quand il marchait sur notre terre. J'ai parfois imaginé que c'était son rire, Richard de Sèze.
Chesterton est effectivement une ressource pour tous les catholiques d'aujourd'hui et pour tous les chrétiens d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
Très peu connu d'ailleurs, Chesterton.
Pas assez connu en France, très connu dans la culture anglo-saxonne. Ce qui est intéressant chez Chesterton, c'est que voilà, il explique que quelqu'un a réussi à inventer en même temps l'ange et le cachalot et que cette personne a forcément le sens de l'humour. Et pour moi, quand on nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, eh ben évidemment, l'humour fait partie de nos caractéristiques en tant qu'humain, et donc l'humour est installé chez Dieu. Évidemment, quand il crée le cachalot, les théologiens, l'ornithorynque, enfin voilà, donc des créatures un peu spéciales, mais aussi lorsque, dans les évangiles, il y a des blagues que le Christ commet, si j'ose dire, vis-à-vis des apôtres, vis-à-vis des pèlerins d'Emmaüs, pour parler de l'issue heureuse des évangiles, lorsque le Christ accompagne les pèlerins d'Emmaüs et qui fait semblant de ne pas être au courant de ce qui vient de se passer à Jérusalem, c'est quand même drôle.
Alors les pèlerins, faut quand même resituer, les pèlerins d'Emmaüs, donc après...
Les pèlerins d'Emmaüs repartent très déçus et très chagrins de Jérusalem. Le Christ a été crucifié, il est au tombeau, ils ne savent pas qu'il est ressuscité, et donc, sur le chemin, ils croisent quelqu'un qui a l'air d'être sympathique. Comme ils sont en train de marcher, ils marchent de conserve, et le Christ leur demande pourquoi est-ce qu'ils ont l'air si malheureux. Les autres lui disent, franchement, t'es bien le seul à pas être au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem. Et le Christ répond, quoi donc? Voilà, dans la traduction de la Bible de Jérusalem. Donc ce quoi donc est déjà une espèce de chef-d'œuvre de litote ironique. Et il marche avec les deux pèlerins, il leur explique ce qui s'est passé, ils sont très contents de tomber sur un expert. Et au moment où ils finissent par comprendre que c'est le Christ, à ce moment-là, le Christ disparaît. Donc c'est le deuxième gag de la rencontre avec les pèlerins d'Emmaüs. C'est alors que leur cœur a enfin compris que non, pas du tout, ce qu'ils prenaient pour une catastrophe absolue était en fait la résolution de toute cette vie publique du Christ. Et ben le Christ leur fait un petit pied de nez, il s'en va. Et le Christ d'ailleurs nous dit les évangiles et les actes des apôtres est apparu comme ça des dizaines de fois après sa résurrection à tout un tas de gens et d'une manière un peu surprenante avec des gens qu'ils reconnaissent pas forcément, c'est normal. Je veux dire, la dernière fois qu'ils l'ont vu, il avait été torturé à mort. Là, il a l'air à peu près d'aplomb et donc il a son corps glorieux et donc visiblement il a bonne mine. Donc ils le remettent pas et à chaque fois c'est une surprise et le Christ ne s'annonce jamais. Donc il attend que les gens comprennent. Donc là, il y a un côté vraiment très ironique dans le Christ. Et un questionnement qui est aussi d'ailleurs celui qu'il emploie avec les pharisiens, mais d'une façon presque sarcastique, et donc qui est tout à fait délicieuse.
Oui, d'ailleurs à propos des pharisiens, donc ces juifs très observants, très rigides, vous leur en voulez dire beaucoup aux pharisiens, parce qu'ils sont très très présents dans le choix que vous avez pu faire. Basile de Coq, pardon, vous parlez des pharisiens comme de vieux présidents, ça j'ai beaucoup aimé ce passage, comme des vieux présidents de clubs de foot qui ne veulent rien lâcher. Alors expliquez-nous.
Écoutez, c'est très simple. La lettre tue et seul l'esprit sauve. Or, nos amis, les pharisiens, hélas pour eux, sont très attachés à la lettre, aux 10 commandements qu'ils ont réussi à multiplier jusqu'à en faire 613 que personne ne connaît à part eux. Et le Christ est là pour se moquer d'eux, mais d'une manière sarcastique, c'est-à-dire pas avec la gentillesse qu'il aura vis-à-vis de la balourdise de ses disciples, mais là, carrément, il les tacle, comme on dit dans votre football, il les tacle, c'est-à-dire il les met en face dans leur contradiction d'une manière géniale. La phrase bien connue, que et celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre.
C'est concernant la femme adultère, hein, voilà. Qui doit être lapidée, enfin qui risque d'être lapidée, voilà.
Et aussi une autre qui est moins connue, mais que je trouve tout aussi probante. Jésus dit aux pharisiens qui s'apprêtent à le lapider, « Je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres au nom de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Ça, si ça n'est pas de l'humour noir, qu'est-ce que c'est?
C'est de la provocation aussi.
C'est de la provocation.
C'est d'abord de la provocation.
C'est de l'humour. Pour laquelle de mes bonnes œuvres souhaitez-vous me mettre à mort?
Provocateur, Richard de Sèze, Jésus.
Absolument. Et alors, il commence d'ailleurs en fanfare avec le saccage du temple. Donc, il arrive. Donc, normalement, les Juifs pieux montent à Jérusalem pour la Pâque. Jésus, qui est un Juif pieux, monte aussi, rentre dans le temple et commence à démonter littéralement à coups de pied et coups de poing l'ensemble des échoppes qui y sont installées. Donc, les changeurs d'argent voient leurs pièces qui roulent. Les cages pleines de pigeons et de colombes sont détruites. Avec un peu de chance, il défait les barrières avec les moutons et ben, voilà, donc il y a un côté provocateur. Je veux dire, Gainsbourg en train de brûler un billet de 500, c'est rien à côté de Jésus en train de ravager le temple. Et comme ça, et il passe son temps à être comme ça dans la provoque.
Alors je précise que chaque extrait d'évangile donc comporte bien sûr vos explications, si je puis dire, mais aussi un dessin, mais très, alors là c'est très épuré, hein. Qui est l'auteur du dessin ?
C'est du minimalisme, c'est-à-dire que c'est une collaboration dans la mesure où le dessin, c'est Richard de Sèze qui l'a fait, car il est le seul à avoir ce trait minimaliste impeccable. Quant au scénario, si j'ose dire, de ces BD, c'est une création commune.
Voilà, chaque dessin est d'abord une discussion entre le président et moi sur ce que nous avons envie de représenter, la manière de le représenter, le dialogue. Donc c'est moi qui tiens le crayon, mais c'est le président qui guide ma main.
C'est ça. Donc il y a effectivement Jésus qui est face à Satan, et Satan qui lui dit, bah voilà, si tu es Dieu, change-moi cette pierre en pain. Et Jésus répond, avec ou sans gluten ?
Ça, voilà, c'est parce que rien n'est impossible à Dieu.
D'ailleurs, vous aimez mélanger, je dirais, les évangiles avec un langage très, très actuel. Concernant les apôtres, vous parlez de 12 ploucs galiléens. C'est pas très sympa, ça. Les ploucs galiléens.
Mais il faut voir la vérité en face. Les évangiles ne les font pas passer pour des foudres de guerre.
Des lumières.
Et Jésus les remet sur les rails, si j'ose dire, mais notamment sur les eaux. Parce que les deux épisodes se passent sur les eaux quand il éprouve la foi de leurs disciples. Ça commence par tous les disciples qui commencent à s'affoler en voyant le Christ qui va, en marchant sur les eaux, dépasser leur barque. Alors ils croient un fantôme et ils crient et Jésus leur dit « Calmez-vous, ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Ensuite, c'est Pierre, le premier d'entre eux, dont la foi est éprouvée, parce qu'il demande à Jésus « Donne-moi l'ordre de venir te rejoindre sur l'eau et je quitte la barque ». Jésus lui dit « Viens ». Et il commence par venir en toute confiance et du coup, il marche sur les eaux. Quand soudain, il prend peur. Et à ce moment-là, il coule aussi sec, si j'ose dire. Jésus lui dit « Pourquoi ne m'as-tu pas cru ?» ou je ne sais quoi.
Oui, voilà. À chaque fois, l'idée, c'est Jésus leur renvoie ce qu'ils sont. Et Jésus, est, une fois de plus, est allé chercher... Donc, il y a toute une anthropologie biblique où Dieu, d'une manière générale, le Christ, d'une manière particulière, ne va jamais chercher le plus puissant de tous les fils de l'homme. Il ne va jamais chercher le plus beau, le plus malin, le plus diplômé, le plus énarque. Il va chercher la bergère pyrénéenne, le percepteur d'impôts, le berger illettré. Parce que sa puissance se manifeste mieux quand on va chercher des ploucs.
Le percepteur d'impôts, effectivement, Matthieu, hein, que vous appelez Matthieu le collecteur d'impôts, collabo. Pas très sympa non plus pour Matthieu.
Mais à l'époque, dans les évangiles nous disent, il perçoit les taxes au nom de l'Empire romain et donc forcément, c'est pas un type sympa quoi.
Question à tous les deux, Basile de Coq, Richard de Sèze, tous ces miracles de Jésus, vous les prenez manifestement au pied de la lettre. Vous êtes des catholiques. Vous pensez que réellement ces miracles ont eu lieu parce qu'il y a des catholiques aussi qui disent voilà ce sont davantage des paraboles ou etc. Vous faites partie des catholiques, vous croyez réellement aux miracles.
Mais il y a des prédictions, des paraboles et des miracles.
Oui.
Je ne sache pas qu'on soit excommunié quand on essaye de relativiser dans son esprit les miracles, mais en ce qui me concerne, je ne vois pas pourquoi. D'ailleurs. Bon, quand on est capable, effectivement, de ressusciter un homme, on est capable aussi de marcher sur les eaux, voire de dépasser une barque. Mais alors, si on est capable de rien, en quoi est-on le fils de Dieu ? Et je ne vois pas pourquoi les miracles seraient extraordinaires de la part de quelqu'un qui a façonné le monde à partir de rien.
Oui. En fait, je suis très étonné par les catholiques qui veulent avoir un Dieu très rationnel et qui ne fait pas de vagues, qui est bien dans les plis. Voilà. Donc, comme un évêque moyen ou un prédicateur à la mode n'est pas capable de ressusciter les morts, donc vraisemblablement Dieu ne l'a pas fait non plus. Mais enfin, ça rime à rien. Dieu se ressuscite, Dieu ressuscite les morts, Dieu est capable de créer la terre. Donc il n'y a pas de souci avec et en plus aucune critique textuelle n'est capable de prouver que c'est faux. C'est juste que ça choque un certain rationalisme.
C'est une question de foi, c'est tout.
Oui, et puis mais même d'un point de vue purement objectif, dire le fait de remettre en cause cette parole-là, ces quatre paroles-là et les autres témoignages qui ne sont pas nombreux mais qui existent quand même. Enfin, et on va pas revenir sur l'historicité des évangiles. Ce n'est en fait pas une critique honnête, c'est une critique qui pose en principe qu'en fait le merveilleux et le surnaturel sont impossibles. Mais pourquoi ?
Et alors donc, ce Dieu, effectivement, aime aussi rire. On va revenir au sens de votre livre. Alors là, est-ce que c'est un message aujourd'hui pour ceux qui voient du blasphème un peu partout ? Basile de Coq.
Les gens qui voient du blasphème partout, ce ne sont pas forcément les plus croyants au fond d'eux-mêmes. Je laisse la parole pour le reste à Richard.
Richard de Sèze.
C'est certainement un message pour aujourd'hui. Il y a quelque chose qui nous a frappé, Basile et moi, c'est que il y a une espèce de tristesse au contraire aujourd'hui, et que le message de l'Évangile est un message libérateur d'une part. Donc c'est pas du tout un ensemble de lois. Voilà, il y a plus de 600 lois avec les pharisiens. Le Christ débarque et il y a plus que deux commandements. En gros, aimez-vous les uns les autres. Et voilà. Et j'ai même oublié le deuxième parce que celui-ci suffit de la bouche même du Seigneur à tout résumer. Il faut retrouver la joie des évangiles et il faut la retrouver aussi dans l'humour des évangiles. Il y a quelque chose qui est fascinant quand le Christ, vous avez commencé cet entretien par rappeler que ça se termine mal. Autrement dit, le Christ est en croix et il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et je crois
absolument,
que
oui.
C'est une phrase que Basile entend souvent de la part de ses camarades qui lui disent « Si même Dieu est capable de dire ça, franchement, ta foi, elle vaut rien. » Et quand on a abordé ce passage-là, on s'est dit que d'une part, il y a un côté tragicomique. Voilà, il y a un charpentier galiléen qui se tait pendant 30 ans. Au bout de 30 ans, il explique qu'il est le fils de Dieu et il fait merveille 3 ans durant dans toute la Palestine, au grand dam des pharisiens. Et après ça, il est crucifié comme n'importe quel brigand, après avoir été torturé.
Torturé,
et
oui.
Sa dernière parole, c'est de dire « en fait, j'ai perdu ». En fait, pas du tout. C'est le psaume 22. Et le psaume 22 commence par ce cri-là. Continue en expliquant, il y a presque une description métaphorique de la passion telle que l'a vécu le Christ, et il se termine par une action de grâce. Tout l'objet du livre est de dire, voilà, il faut que vous dépouillez la manière dont vous regardez l'Évangile, dont vous lisez l'Évangile, il faut que vous le lisiez en vérité, et que, bien sûr, c'est un texte sacré, mais surtout, c'est un très beau texte, avec un personnage absolument extraordinaire, qui fait des miracles, qui raconte des blagues, qui est capable de plaisanter au moment où il ressuscite quelqu'un, qui, lorsqu'un aveugle est en train de recouvrer la vue, il loupe un peu la guérison, et l'aveugle lui dit, je vois pas très bien, on a l'impression qu'il y a des arbres qui marchent, c'est quand même formidable. On l'a pas mis on le fera pour le tome 2, quoi. Mais voilà, c'est l'aveugle guéri à Bethsaïde. Voilà. Donc, c'est ça, le message, c'est ça, en fait, c'est relisez les évangiles comme vous liriez n'importe quel livre, et vous serez beaucoup plus stupéfait qu'avec n'importe quel livre.
Donc, les relire à travers vos 33 meilleures blagues de Jésus, Richard de Sèze, Basile de Coq, et c'est publié aux éditions du Cerf. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
À vous.
Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delerue, Sophie Janin vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
La marche du monde.